Conversion, introduction à la philosophie première, par le père Philippe Arimon, le 18 avril 1993, premier cours.
Pas moins lourd pour vous. Forcément dense. Parce qu'il faut quand même essayer de voir quelques grandes perspectives. C'est peut-être un peu lourd. Alors nous allons maintenant entrer dans la première grande interrogation. Vous voyez, ce qu'il faut, parce que autrement, on ne découvre pas ce qu'on appelle depuis Aristote, puisque c'est lui qui l'a inventé, bien que ça existe déjà chez Platon. Parménide, la voie inductive. Alors qu'est-ce que c'est que la voie inductive? La voie inductive, c'est partant de l'expérience, on remonte à la source. Donc, c'est ce que Peggy dit du philosophe. Il remonte à la source. C'est ce qu'il y a de plus intéressant au point de vue philosophique. La voie déductive, c'est très bien, mais ça va de soi. Ça aboutit aux conclusions. Le philosophe ne s'arrête jamais aux conclusions. Jamais. Un vrai philosophe, il remonte tout le temps à la source. Mais ce qu'on appelle la scolastique décadente, elle ne garde plus que les conclusions. Et elle a complètement oublié l'aspect déductif, l'aspect inductif. L'épagogé. L'épagogé, c'est justement cette voie de découverte. Et le mot dévoilement de Heidegger est assez juste pour le point de vue de cette voie inductive, on dévoile. On enlève les gros cailloux. Il y a quelque chose un peu, vous voyez, de la méthode de celui qui découvre les ruines. Celui qui creuse, pour découvrir ce qu'il y a de tout à fait premier. Au-delà de quoi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de détermination. Alors, je crois que pour comprendre vraiment ce que représente cette voie inductive, il faut la comprendre d'abord au point de départ. Passer de blanc à blancheur, c'est une voie inductive. Puisque blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Ça, Platon l'a découvert. Découvrir la forme en soi. Mais voyez le très grand danger de cela, quand on reste là, c'est tomber dans un formalisme. C'est-à-dire dans un modèle. La forme en soi est modèle de toutes les formes participées. La blancheur. Et de la blancheur, on a la tentation de déduire toutes les formes particulières de blanc, ce qui est une erreur. Parce que de la forme en soi, je ne peux rien déduire. Je ne peux pas déduire la chose. Alors, ce qui est intéressant, mais c'est quand même la première voie inductive. Je passe de blanc, le blanc du mur, le blanc de la neige, la blancheur. Toute la philosophie commence par l'étude de l'œuvre d'art. C'est curieux, hein? Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de nous. Or, la grande distinction de l'œuvre d'art, c'est très simple, c'est de distinguer la forme matière. Vous savez, ça reste encore dans certaines corrections. On dit très bien pour le fond. Malheureusement, la forme, complètement lamentable. Oui, le fond, c'est la matière. Un riche laboureur, n'est-ce pas, le fond. La femme de La Fontaine, on voit très bien, c'est le fond qui reste. C'est la matière, c'est l'aspect radical. Et la forme, eidos, en grec, la forme qui détermine. C'est la première distinction d'analyse. Toute analyse commence par la distinction de la forme et de la matière. Selon l'ordre génétique, selon l'ordre de la recherche. C'est vrai, et c'est ce petit exemple que prend Aristote, très simple, le cercle. Peut-être un cercle donné tout simplement sur le tableau. Je peux construire un cercle de bois, je peux construire un cercle d'airain. C'est toujours le cercle. La forme la plus parfaite. Le cercle. Ce gosse, j'ai toujours retenu ça parce que ça me semblait tellement merveilleux. Ce gosse de 4 ans, sa mère vient lui apporter la soupe. Puis il est penseur, il pense. Alors elle me dit, à quoi penses-tu ? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors elle m'a dit, prends ta soupe avant de savoir ce que c'est que l'éternité. Est-ce que c'est que l'analogie ? Vous retrouvez une distinction analogue et totalement différente. La distinction de l'âme et corps. Parce que l'âme, mon âme, dans la mesure où j'ai découvert en plan philosophique, philosophie du vivant, mais c'est présupposé, connu, quand je regarde la philosophie première. Il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai le droit de regarder cette première distinction dans des domaines différents entre degré la nature, forme, et la nature, matière. Donc vous voyez, 1, 2, 3. Je retrouve la même distinction dans des perspectives tout à fait différentes. Et je me pose la question, est-ce que dans l'ordre de l'être, je vais trouver la même distinction ? Est-ce que l'être comme être implique matière et forme ? Forme et matière. C'est quand même intéressant, hein ? C'est un grand problème que je vous disais que Averroès et Lénine, deux extrêmes. Averroès, hein. Vous voyez bien, Avicenne et Averroès, des grands commentateurs d'Aristote. Et puis Lénine. Ils disent, l'être se distingue, se divise en matière et forme. Autrement dit, cette distinction première que je découvre dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre artistique. Prenez ça, vous, les autos aussi. Vous avez la même. Vous avez l'auto en série, il y a une forme, un style particulier. Enfin, dernier style de la Renault, où le nez est coupé, n'est-ce pas ? Alors on voit le moteur rentrer, c'est à la mode. Enfin, ils sont les modes, ils sont les styles. À chaque fois, vous êtes sensible à ça. Quand vous regardez les styles, les modes qui varient, la matière, c'est toujours la même. Vous pouvez la retrouver. Et il y a des formes qui appellent belle matière et des formes qui ne vont pas du tout dans belle matière. Ça, c'est le sens de l'artisan. Le véritable artisan sait que telle forme implique telle matière. Et dans les styles de mode, c'est même ça aussi. Il y a des tissus de nylon, des tissus de laine, et on ne fait pas la même chose avec telle ou telle chose. C'est très très curieux ça. Il y a un lien, une harmonie entre les deux. Mais c'est une distinction entre matière et forme. Je me pose donc la question première. Quelle est la forme de l'être? Je me poserai ensuite la question, est-ce que l'être implique essentiellement matière? C'est une très grave question. C'est une question fondamentale, ça. Pour moi, c'est la première question au point de vue métaphysique. Elle est très importante. Et elle est difficile. Vous voyez, quelle est la forme? Puisque la forme correspond à la question qu'est-ce? Esti en grec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous désignez les réalités par leur forme, leur détermination. Vous dites, c'est une araignée. Pourquoi vous dites que c'est une araignée? Parce que vous avez un petit schéma de l'araignée. Puis vous dites une grosse araignée, une petite araignée, mais c'est toujours une araignée. Une araignée méchante, mortelle, ou celle-là, non. Ne vous inquiétez pas. Vous faites ça pour toutes les classifications d'animaux. Il y a une détermination. Une détermination qui est la figure particulière, la figura, la figure particulière de cet animal. Et puis vous, tout d'un coup, vous trouvez devant quelque chose de tout à fait distinct. Regardez les têtes de chiens, depuis le bulldog jusqu'à le lévrier. Pas tout à fait la même chose, pourtant c'est toujours une tête de chien. Réalisée dans tel animal, tel autre animal. Et les hommes, alors, sont encore plus variés. Hein. Je me vois d'ici, pas trop peur, regardez ça. Mais vous voyez, l'harmonie d'une tête humaine. Est-ce qu'il y a la tête humaine, ou bien non, diversité? Matière et forme, c'est très curieux. C'est une distinction fondamentale que nous faisons pour analyser. C'est la première analyse. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Quelle est la détermination fondamentale de l'être? C'est intéressant. Et certains diront, on peut pas. Quelle est la détermination fondamentale de l'être? Alors, ici, je pars, puisque c'est par rapport à l'homme, comme c'est très difficile de comprendre ce que c'est que l'être, je prends l'être tel qu'il est réalisé dans l'homme. L'être dans l'homme. Mon être. Ou l'être de mon voisin. Puisque c'est dans l'homme où l'être est le mieux réalisé. L'homme est un petit univers, comme disaient les anciens. C'est un petit cosmos. Et donc tout le cosmos se trouve réalisé dans l'homme. Alors, Ici, nous faisons appel à quelque chose de très classique. Je vais faire l'inventaire de toutes les déterminations que je trouve dans l'homme. Ce qu'on appelle la table des prédicaments. Je fais ça, je pourrais très bien ne pas m'en occuper, mais puisque ça a été fait, ça m'intéresse. Quelles sont les déterminations qui sont dans l'homme? Détermination première, l'homme est un individu. C'est un individu, c'est un être concret. L'homme c'est Pierre, l'homme c'est Jacques, l'homme c'est Jean. L'homme, c'est Arthur. Pour chacun d'entre nous, l'homme, c'est Arthur ou Jacob ou Ésaü. Il y a des gens qui aiment les rouquins, mais c'est rouquin, c'est Ésaü, il était roux. Tandis que Jacob était blanc. Donc, c'est l'homme, Pierre, l'individu. Mais, deuxièmement, l'individu, c'est un homme. Ah! Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans Pierre? C'est qu'il est un homme. Pierre est un homme. Pierre n'est pas un singe. Pourquoi Pierre n'est-il pas un singe? Alors qu'il y a des ressemblances entre les deux. C'est que Pierre sourit. Et que le singe ne sourit pas. C'est pas la parole, parce qu'on dira que le singe parle. Il paraît que les singes ont un langage entre eux. On étudie ce langage. Vous voyez, on n'a pas d'autre chose à faire aujourd'hui que d'étudier le langage des singes les plus élevés. Et il y a des grands savants qui étudient ça et qui vivent avec eux pour essayer d'apprendre leur langue. Je ne sais pas si au bout d'un certain temps, dis-moi qui tu fréquentes, et je dirais qui tu es. Alors, je ne sais pas si au bout d'un certain temps, ils arrivent à parler la nouvelle langue, la langue de leur orang-outan. Mais jamais un singe ne sourit. Voyez, le langage est un peu conventionnel. Le rire n'est pas conventionnel. Et le sourire encore moins. Un enfant sourit. Faites sourire un petit singe. Si vous le faites, vous avez le prix Nobel. C'est le sourire est caractéristique de l'homme. Et donc Pierre est un homme parce qu'il sourit. Et un homme qui ne sourit jamais, ça prouve qu'il est sous la tyrannie qui a tué le sourire. C'est très curieux. Bon. L'homme, il a des qualités. Oh, Pierre, il a des qualités. Il est intelligent. C'est une qualité d'être intelligent. Il a beaucoup de cœur. Il est généreux. Ainsi de suite, toutes les qualités. Puis, il y a la quantité. Il pèse 110 kilos. C'est caractéristique. La quantité. Il a telle taille. La quantité. C'est un homme de relation. Un, deux. Pardon, attendez, faire attention. L'individu, c'est celui qui n'est attribué à personne. L'individu Pierre, c'est Pierre. Il a son autonomie. Tandis que homme est attribué à Pierre. Un, deux, trois, quatre. Puis vous arrivez. Attribution, je peux vous les donner, l'action, la passion. Alors 5, 6, 7, vous avez la question du temps, la question du lieu, la question du situs et la question de celui qui est capable de posséder l'habitus. Il y a 10 déterminations. On appelle les prédicaments. Et ça demeure. C'est quand je regarde l'homme, je voix qui a dit détermination. C'est un athlète. Il a une force, il a du biceps. L'autre, il bâtit. Ça enfonce comme dans du beurre. Je me souviens, c'est la première fois que j'étais chez le dentiste à Fribourg. Le dentiste qui était un jurassien, n'était pas un fribourgeois. Et ça joue un écranton. Il sortit là. Vous n'êtes pas un fribourgeois. Je dis non, je ne suis pas un fribourgeois. Ah, ça se voit. Parce que ça ne s'enfonce pas comme dans du beurre. Vous voyez, l'action et la passion, c'est extrêmement caractéristique. C'est vrai, les dents, ça signifie quelque chose. C'est très caractéristique, parce qu'il n'y a pas deux mâchoires semblables. C'est très individuel la mâchoire. Et les dents, c'est très caractéristique. Des racines dans les dents. Les carcades d'un chien avec de belles dents. Tandis que le chat, c'est les griffes. Ça donne toute une physionomie différente. Détermination, action et passion, relation. Le temps, ça joue. C'est une détermination. Je suis né à telle date. Je suis né dans tel lieu. Je suis né dans tel climat, le situs. C'est par rapport au tout. Si on est dans une famille de 5, une famille de 10, le situs est différent. Vous êtes le 7e, vous êtes le 1er situs. Le lieu, dans l'ensemble, dans le tout, dans le milieu. Alors, il est différent. Milieu, il y a le milieu de l'univers, il y a le milieu familial, il y a le milieu politique, il y a le milieu, et ainsi de suite. Nous formons un milieu. Pendant un certain temps, on forme un milieu, parce qu'on est ensemble. Et vous avez votre situs dans ce milieu. Il y a ceux qui sont au premier rang. Il y a ceux qui entendent difficilement. C'est un situs différent, ça c'est évident. Alors ils sont à droit particulier d'être au premier rang. Et ceux au contraire qui entendent très bien, ils sont à droit particulier d'être loin, comme ça on ne les voit pas. Alors c'est une situation différente. Oui, le situs, c'est très très curieux. Ça joue un très grand rôle dans la morale de situation. Chez Sartre, vous voyez. Mais alors c'est intéressant, ça devient selon la table des déterminations, l'avant-détermination, presque la dernière, le situs. Et c'est vrai que ça joue énormément dans un monde comme le nôtre, où l'aspect social joue énormément. C'est le situs. Et le dernier, c'est l'habitus, l'avoir. J'ai un habit. J'ai une pipe. Alors sur la pipe, ça se voit très très bien. Normalement, une pipe, c'est très très personnel. C'est comme un dentier, n'est-ce pas? C'est très, très personnel. Je ne passe pas à mon voisin. Et il épouse ma forme, comme l'habit. Vous voyez, quand vous avez une pile d'habits, et tout le monde a à peu près le même habit, vous allez tout de suite le reconnaître le vôtre, uniquement le touchant. Et extérieurement, il y a quelque chose de particulier. C'est mon habit. C'est le point de vue de la propriété, l'habitus. Vous voyez, c'est la dernière détermination. Et c'est propre à l'homme. Un animal n'a pas d'habit. Ça, c'est la constatation de Platon, tu vois, où il montre que l'homme naît sans habit et qu'il a besoin d'habit pour lui. Pour lutter contre le froid, où il a besoin d'un climat pour lutter contre le chaud. L'animal, non. D'où la nécessité de l'art. L'art naît à partir de l'homme. Vous voyez, l'usage qu'on fait d'un outil, c'est mon outil. Et c'est l'usage qui fonde le droit de propriété. Parce que quand vous allez utiliser un outil, c'est votre outil. Il faut voir ça chez les artisans. Hein. Un menuisier, qui est un vrai menuisier, ben, il ne pouvait pas lui chipper son outil. Il ne peut plus travailler. Parce qu'il a travaillé 20 ans avec cet outil. Alors il y a quelque chose de lui. Oui. C'est ce quelque chose de soi. Aujourd'hui, hein, on n'a plus que des pics. Alors des pics, j'ai aucune espèce de lien de propriété. Avant, un stylo, c'est déjà quelque chose. C'est mon stylo. Je l'ai depuis 10 ans. Il y a quelque chose qui passe. Non. Alors, il faut se rappeler ces 10 déterminations, c'est très important. Je me pose la question, laquelle de ces déterminations est-elle la détermination première de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être se donne à moi à travers ces 10 déterminations. Voyez, c'est quand... Alors, si je voulais analyser, je verrais chacune de ces déterminations en montrant qu'elle ne peut pas être la première. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations? Quand je prends ce petit tableau, il est intéressant parce qu'il contient toutes les déterminations. C'est l'état de l'être. On voit les déterminations de l'être. 10 déterminations. Je peux très bien m'en passer, mais puisque ça a été fait, c'est intéressant. Je me sers de quelque chose qui a été fait et qui a quelque chose d'intéressant. Alors on l'appelle les 10 prédicaments, c'est-à-dire les 10 attributions, les 10 déterminations de l'homme. L'animal n'en a que 9. Ce qui est propre à l'homme, c'est d'avoir l'habitus. Parce que la vache a son situs. Dans l'étable. Vous savez bien, ah, cette vache, la roussette, elle est tout le temps la seconde. Elle n'est jamais la première. Elle a son situs. Il y a certains qui sont toujours premiers et d'autres qui sont toujours à la suite. C'est curieux, dans un troupeau de moutons, c'est comme ça. Un troupeau de vaches aussi. Et chez les hommes aussi. Il y a ceux qui se mettent toujours premiers, ceux qui se mettent toujours second. Situs. Morale de situation, l'éthique de situation. Alors, parmi ces déterminations, je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? La détermination première de l'être. Je peux dire que la première détermination de l'être, c'est homme. Toutes les autres sont relatives. Donc, elles sont secondes. Donc, ce n'est pas la détermination fondamentale de l'être. Je vois qu'il y a 2 déterminations fondamentales de l'être, l'individu et homme. L'individu, c'est ce qui existe. Homme, à homme, il y a quelque chose d'universel. C'est universel. Pierre est un homme, Jacques est un homme, mais Pierre comme individu n'est pas Jacques. Nous avons, vous voyez, comme il y a le chiffre biologique de chaque individu, j'allais dire, il y a le chiffre métaphysique de chaque individu. Chaque individu est un individu qui n'est pas l'autre. Nous avons tous ce privilège d'être unique dans notre individu. Et on ne peut pas nous remplacer. On n'est pas fait en série. Et ça, c'est très important. Parce que quand on est mal dans sa peau, c'est très important de comprendre qu'on est unique. On ne pourra pas nous remplacer. C'est quand même intéressant. On est irremplaçable. Tandis que si on était un outil, on serait remplaçable. Si on était en série, une auto et un accident, on la remplace. Ça ne pose pas de problème. Je ne peux pas faire ça pour l'homme. Chaque homme est unique. Alors ça, c'est l'individu. Il est unique dans son existence et dans sa détermination. Il est unique. Donc irremplaçable. Et il est toujours homme. Homme exprime l'espèce. L'espèce homme. Alors, homme exprime quelque chose que l'individu n'exprime pas. Et cependant, homme existe en l'individu. Alors, quelle est la détermination la plus fondamentale? Puisque je pose la question, qu'est-ce que c'est que la détermination de l'être? Je ne me pose pas quelle est la détermination de l'être. en tant qu'il existe. Qu'est-ce qui le détermine fondamentalement, radicalement? Ce n'est ni homme ni individu, ce sont les deux. Et vous resterez toujours entre les deux. Homme exprime quelque chose que individu ne dit pas, et individu dit quelque chose que homme ne dit pas. Alors développons, voyez, ce que la philosophie hegélienne a été très sensible en ça, le concret et l'abstrait, l'universel. Pierre, en tant qu'homme, a quelque chose d'universel. Pierre, en tant qu'homme, dans son individualité, est concret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'opposition ou de la distinction concret et universel? L'individu est un être substantiel. Et le caractère de ce substantiel, c'est d'être homme. Alors, de fait, on dira substance première, substance seconde. La substance première, c'est l'individu. Le sujet de toutes les déterminations. Pierre est homme. Pierre est intelligent. Pierre pèse tant. Pierre a une telle lieu. Toutes les déterminations autour de Pierre. Mais quelle est la détermination première de l'être? La dualité est toujours seconde. Il y a donc quelque chose qui est antérieur au point de vue de l'être à l'individu. Et quelque chose qui est antérieur au point de vue de l'être à l'homme. Et c'est là où se pose l'interrogation. Qu'est-ce qui est au-delà de l'individu dans l'homme qui existe, dans cet être qui existe? Je dirais pas l'homme, je dirais cet être qui existe. Qu'est-ce qu'il est radicalement? Je ne peux pas dire que ce qui est radical, c'est l'individu, mais non, l'individu est complexe, implique des tas de choses. Il se modifie. Qu'est-ce qui est radical en lui? Qu'est-ce qui est premier? Oui. L'interrogation. J'ai tout ramené. Toutes les autres déterminations se ramènent à ces deux déterminations. Homme et individu. Substance première, substance seconde. Alors, c'est à partir de là que je découvre qu'il y a quelque chose de radical et de premier au-delà de l'individu et source de l'individu. Au-delà de l'homme et source de l'homme, au point de vue de l'être. Puisque, au point de vue de l'être, l'homme est un être. Il n'est pas l'être. Il est un être. Un être particulier. Un être spécifique. Un être irremplaçable. Il est unique. Dans son être. Qu'est-ce qui est à la racine de cette distinction individu et homme? Il y a une source première, la source de l'individu, la source qui détermine l'homme. Et c'est cela que j'appelle ce principe selon la forme, donc selon la détermination de cette réalité qui est l'homme. Et je dirais que c'est l'ousia, c'est-à-dire la substance, source de toutes les déterminations. Vous voyez, je vais vite, hein, parce qu'il faut secouer tout ça pour bien comprendre le dépassement de toutes ces déterminations que je vois, que je décris. Il y a une source. Comment se fait-il que je suis un dans mon être? Si on me coupe mon bras, dis attention, hein. Ça m'appartient. Si on m'enlève une dent, attention, demandez-moi la permission, monsieur le dentiste. Vous n'avez pas le droit de l'enlever sans me demander la permission, parce que c'est mon être. C'est vrai, j'existe en mes dents. passage d'une langue à une autre langue. Substance, c'est le mot latin. Et ousia, c'est le mot grec. Il y a le génie grec et le génie latin. Et nous sommes dépendants des deux génies. Je ne dis pas que la synthèse française est supérieure au génie latin, au génie grec. Oui, on peut se le dire, hein, c'est évident. On en a quelque chose comme ça. Et l'Europe dépend du génie latin et du génie grec. De fait, le génie grec est artistique, le génie latin est juridique. Il y a les deux tout le temps qui s'affrontent. Mais c'est très intéressant de voir que le mot « substance » c'est substare, ce qui se tient en dessous, donc le point de vue du sujet. Ce qui supporte toutes les attributions, c'est le sujet. Le mot sujet est logique, ce qui supporte toutes les attributions. Je dis Pierre est grand, j'attribue à Pierre la grandeur, j'attribue à Pierre l'intelligence. Oui, le sujet. Le sujet est indéterminé et prend toutes les déterminations. Alors, c'est très dangereux de dire que Ousia, qui est saisi comme une source, comme un principe, comme la source de toutes les déterminations, de l'appeler ce qui est complètement indéterminé. C'est un latin, ça. Oui, c'est très très curieux et c'est très intéressant parce que c'est source, je veux dire, c'est l'occasion d'une quantité de confusion. Alors, il faut que nous-mêmes, nous redécouvrions ce qui est à la source de toutes les déterminations de l'homme. Vous voyez, la métaphysique, c'est la métaphysique de l'homme. Quel est l'être de l'homme? C'est ça qui m'intéresse. Parce que si je faisais l'être de la fourmi ou du crapaud, je n'aurais pas l'habitus. Et puis ça ne m'intéresserait pas du tout, parce que je ne saurais pas exactement ce que ça représente. Y a-t-il une substance dans le crapaud? Je n'en sais rien. Dans l'homme, oui. Il y a une autonomie radicale dans l'homme. Il y a une unité radicale dans l'homme qui fait qu'il est unique. Tandis que l'individu crapaud est au service de l'espèce crapaud. Il est pour l'espèce crapaud. Et l'espèce crapaud l'emporte sur l'individu. Tandis que dans l'homme, pas du tout. C'est pas du tout l'espèce homme qui l'emporte sur l'individu, non. Il y a dans l'homme quelque chose d'unique qui fait que Pierre est Pierre. Il faut philosophiquement montrer l'être de Pierre, qui est une réalité substantielle et première. Donc voyez comment, par les déterminations, j'arrive à découvrir progressivement et lentement. L'induction est un procédé qui est lent, parce qu'il faut écarter tout ce qui n'est pas premier. Je cherche ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre des déterminations, dans l'ordre de la forme? Je dis, il y a une source que je ne touche que par l'intelligence. L'induction, c'est l'intelligence qui veut découvrir ce qu'il y a de premier. Je peux prendre une autre voie, parce que c'est toujours ce qui est toujours très complexe. Il faut prendre plusieurs voies. Il ne faut pas oublier, on a deux yeux pour avoir le relief. Et presque toujours, il faut deux voies complémentaires. Parce qu'une seule voie, ça me coince. Et je n'arrive pas à saisir. L'autre voie, c'est très simple, c'est de me servir de la philosophie du vivant. J'ai distingué en philosophie du vivant l'âme et le corps. En moi, il y a une âme que j'ai découvert en philosophie du vivant. Il y a un corps. Et l'âme et le corps ont une unité. Il n'y a qu'un seul être en moi. mon être de mon âme et mon être de mon corps. Et chaque fois que je m'endors, je dis mon être de mon âme quitte le corps pour que le corps dorme bien. Non, je peux pas. Je peux pas séparer l'âme du corps. C'est le fruit d'une analyse. C'est une distinction, mais ce n'est pas une séparation. Je peux, par le point de vue de la philosophie du vivant, me poser la question, quelle est ma substance? Qu'est-ce qui est de radical en moi? Qu'est-ce qui détermine mon être? Mon être, il existe dans mon corps. Puisque si je me coupe mon bras, on ne touche pas mon âme. Mais on touche mon individu. Et en coupant le bras, ben, mon individu en souffre. Parce qu'il implique les deux bras. Si on enfonce un clou dans l'œil, je deviens borgne. Mais il y a quelque chose qui ne va plus. Donc on ne peut pas toucher l'intégrité du corps. L'intégrité du corps fait partie de mon. J'ai qu'un seul être, l'être qui vient de mon âme et de mon corps. Alors, quelle est la substance? Quand je prends la distinction âme et corps, il y a une unité d'être. S'il y a une unité d'être, il y a donc quelque chose au-delà de l'âme, au-delà du corps, puisque âme et corps risquent toujours de me maintenir dans un dualisme. Et même dans le langage, vous savez, on dirait « Oh, quelle belle âme hein, !» Vous n'avez jamais vu son âme. Et pourquoi vous dites « Quelle belle âme !»« Oh, cet homme, il a une âme merveilleuse !» Un pauvre corps malade. Mais dans ce corps malade, il y a une âme merveilleuse qui vit admirablement. Bon, ceux qui ont connu Marthe Robin, c'était d'un frappant là et d'une chose étonnante. Un petit corps maladif, terriblement maladif. Marthe était entièrement repliée sur elle-même. Elle mesurait 1m10. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Il y avait une âme prodigieuse, comme intelligence et comme générosité et comme cœur. Il n'y a pas de division. Il y avait l'unité. Marthe, c'était les deux. On pouvait très bien ne pas expliquer sa maladie. On pouvait très bien être en admiration dans son âme. Mais on savait très bien que je ne pouvais pas séparer l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Il y avait unité d'être. Cette unité d'être, c'est la substance qui fait l'unité d'être. Alors, vous allez me dire, il y a donc dans l'homme l'âme et la substance. Non. L'âme humaine est la substance de l'homme. Oui, pour nous, c'est plus facile à comprendre. Ma substance, c'est mon âme. Mais mon âme, telle qu'elle existe, comme source, implique le corps. Mon être est premièrement radicalement dans mon âme. Mais mon être implique le corps. Puisque le propre de Pierre qui existe, il a une âme et un corps. Il a une âme et un corps. Il est âme et corps. Il est âme et corps. Pas seulement il a un corps. Son corps, c'est son être. Donc il est avec son corps. Il est dans son corps. Mais au plan de l'être, je dépasse cette distinction pour voir que l'âme est substance de l'unité de son être.
session d'introduction à la philosophie première par le père Philippe Arimon, le 18 avril 1993, deuxième cours.
Obligé d'aller assez vite, hein. Vous comprenez? On soulève des tas de problèmes, c'est sûr. Il faut essayer de comprendre la force de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, comprenez bien, je ne reste pas dans l'abstrait. Je suis toujours lié à ceci est. Je suis. Tout le temps. Et je constate que l'être n'existe, donc n'est lui-même, que d'une manière individuelle. Et je dirais ensuite d'une manière personnelle. C'est sûr que homme n'existe que dans l'intelligence de l'homme. J'ai jamais vu l'homme. Tandis que j'ai vu Pierre. Je regarde toutes les déterminations de Pierre. Un petit inventaire. Au niveau de son existence individuelle. Et je vois toutes ces modalités particulières. Qu'est-ce qu'il y a de premier parmi tout ça? Loyalement, il est disparu. Loyalement, qu'est-ce qu'il y a de premier? L'individu, Pierre. Pierre est premier. Et homme est premier. Vous voyez? C'est ça qui me semble important à saisir. Il y a deux premiers dans deux lignes différentes. Et qui pourtant font un. La dualité n'est jamais première. Donc il y a quelque chose qui est premier. Aristote, pour s'amuser, prend ce petit exemple de banc. B n'est pas A, A n'est pas B. Banc. C'est très simple, c'est les ensembles, vous voyez. La partie et le tout, quoi. Bon, on représente un tout. Et les parties du tout ne sont pas le tout. Et il y a quelque chose qui fait le tout. L'individu Pierre n'est pas homme dans toute son extension. Puisqu'à côté, il y a Jacques, qui n'est pas Pierre. Et donc, il y a l'homme et l'individu. Et votre empire est unique dans son être. Il y a donc une source de cette unité. Oui. Qui unit l'individu et l'homme. Et ça, c'est l'induction. Hein. C'est toujours par l'unité que se fait l'induction. Parce que l'unité... C'est la propriété de l'être qui annonce l'être, qui annonce, l'unité annonce sa substance, un principe, une source. Toute unité provient d'un principe, au-delà des parties. Les deux parties substantielles que je saisis, individu, Pierre et homme, il y a quelque chose de plus radical. Fait l'unité des deux. Je ne peux pas me ramener à l'individu. C'est pourtant l'individu seul qui existe. Et C'est le gros problème philosophique de tous les philosophes, hein, le concret et l'universel. Je ne peux pas abandonner le concret pour l'universel. Je ne peux pas abandonner pour le concret l'universel. Homme dit autre chose qu'individu. Et Pierre dit à la fois individu, parce que c'est un individu. Et cependant, cet individu est un homme. Alors qu'est-ce qui fait l'unité? Il y a une source d'être en lui qu'on appelle substance. Et on l'appelle substance. Pourquoi? Parce que avant de découvrir ça, je voyais que l'individu, c'est une substance première, radicale, qui reçoit toutes les attributions. Et je voyais que homme, c'est bien un attribut substantiel qui caractérise Pierre. Et je dis substance seconde. Substance première et substance seconde, c'est une distinction logique. Sujet, attribut. C'est une distinction logique. Dans la réalité, cette distinction est dépassée au plan métaphysique. Bah, la substance, source, principe, selon la forme de toutes les déterminations de l'individu. Vous voyez, c'est subtil, je suis tout à fait d'accord. Alors revenez toujours à ce petit exemple. Ça c'est très grec. Ba, B, I, A. Est-ce que le tout me fait comprendre des parties ou est-ce que les parties me font comprendre le tout? Eh bien quelque chose au-delà du tout et des parties, c'est la source qui fait l'unité. Bon, ça c'est une voie. Comme c'est difficile de découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être selon la détermination, selon la forme, je prends une autre voie. La voie qui présuppose la philosophie du vivant. Dans la philosophie du vivant, je distingue l'âme et le corps, aussi par voie inductive. Parce que je n'ai jamais vu l'âme séparée au corps, sauf dans les rêves. Et les rêves, c'est des rêves. C'est pas la réalité. Et inductivement, je suis obligé de poser l'âme. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que toutes mes occupations de la journée sont très diverses. Vous dormiez ce matin, du moins j'espère, à 4 heures du matin. Vous vous êtes réveillé. Quand même une opération intéressante. Vous vous êtes réveillé. Si vous comprenez ce que c'est que le réveil, quand on voit des gens qui ne se réveillent jamais, vous êtes réveillé. Vous avez remis la machine en route. Puis, vous avez prié. Au moins certains. Au moins, vous avez réfléchi. Nouvelle journée. Vous avez mangé. C'est toujours vous. C'est la même personne qui a fait tout ça. Puis, vous avez rencontré quelqu'un. Bonjour. Ça va bien. Bien dormi? Oui, très bien. Bien, en forme. On va y aller. On va travailler. Vous avez quelque temps, vous avez travaillé seul. Puis, vous êtes venu au cours. Oui. Et continuez toute la journée. Toutes les opérations multiples, depuis que vous avez conscience d'être un être, est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez conscience d'être la même personne qui s'est endormie le soir? Quand vous vous posez la question, ça devient dangereux. Est-ce que c'est bien moi qui me suis endormi hier? Ça devient très dangereux, ça. Est-ce que c'est bien moi qui, il y a 10 ans, on monte la photo il y a 10 ans, vous vous souvenez, je vous ai rencontré à cet endroit. Oui. Alors, certaines choses, on se rappelle très bien. Le propre de la vieillesse, c'est que les pneus s'usent. de sorte que, de fait, il y a des dérapages et que facilement, les choses s'inscrivent moins. Les choses s'inscrivent beaucoup plus quand on a 17, 18 ans. Je me souviens de la réflexion que me faisait mon vieil oncle Père de Haut. Et en vieillissant, les choses qui marquent le plus, ce sont les rencontres qu'on avait entre 18 ans et 35 ans. Chose qui marque le plus. Et c'est vrai, ça. Il y a d'autres choses qui marquent, c'est évident, heureusement. On continue d'être la même personne. Mais on continue d'être la même personne. Comment ça se fait? Alors que biologiquement, on est tout entier renouvelé au bout de 7 ans. Oui, il y a des choses qui restent, oui. Il y a des choses qui restent biologiques. Le chiffre biologique demeure le même. Mais c'est pas le chiffre biologique qui explique l'unité. Le chiffre biologique n'explique pas comment vous avez pensé, vous avez rencontré telle personne, vous avez été capable d'aimer. Non, c'est la même personne. Qu'est-ce qui fait l'unité? Il y a en nous une source de vie, qui est ma vie, source de toutes mes opérations, ce qu'on appelle âme. Je vous ai dit, le mot âme n'est pas philosophique. Il est selon les traditions religieuses. Mais le philosophe dit, oui, il y a une source de vie en moi. Et une source de vie qui explique cette très grande diversité. Et je suis capable même de connaître l'universel. Le signe qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà de la quantité. La quantité n'explique pas l'universel. Et donc il y a en moi une source de vie spirituelle. Et une vie spirituelle qui informe mon corps. Et qui fait l'unité. Et je l'appelle âme. Vous voyez, l'induction me conduit à saisir un principe. À partir de la diversité ou de la dualité. Je me souviens, c'était à Lausanne. C'est le professeur de philosophie de Lausanne que je connaissais bien, qui est mort maintenant, et qui me disait que tous ses étudiants et étudiantes étaient très influencés par Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, qui disait pas de distinction entre l'âme et le corps. Non, il y a l'unité. Ce que disaient les stoïciens, pas de distinction. Donc il y a toute une position philosophique qui refuse la distinction. Alors il m'avait dit, est-ce que vous ne pourriez pas venir leur expliquer la manière dont vous concevez la distinction de l'âme et du corps? Ça les intéresserait. Alors je savais qu'il y avait une sensibilité très grande à Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, c'est quand même quelqu'un qui est intelligent. Il est mort maintenant, intelligent, qui avait creusé certaines choses et qui avait fait des découvertes du reste étonnantes à la fin. Il est mort très jeune. Il n'a pas pu pousser. Il avait découvert l'être sauvage. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire l'être qu'on découvre, qu'on dévoile, comme la bête sauvage qui se cache. Donc on dévoile. Et ça, c'était la fin de sa vie. Il n'a pas été plus loin. Mais il avait dit, il faut revenir à un réalisme. La fumologie ne suffit pas. Il faut revenir à un réalisme. Et alors, il n'avait pas encore distingué les deux. L'âme et le corps. Parce que c'est le réalisme qui me permet de distinguer les deux. Il y a des opérations qui ne s'expliquent pas par le corps. Même si certains biologistes aujourd'hui veulent le dire par les neurones, ils veulent tout expliquer par le point de vue biologique. Or, ils n'expliqueront jamais la connaissance de l'univers. implique l'universel. La connaissance scientifique implique l'universel. C'est un signe que mon intelligence, que mon âme, source de ma vie, touche quelque chose de spirituel, d'immatériel, au-delà du corps. Alors, ces étudiants et étudiantes étaient tous partisans qu'il n'y avait pas distinction de l'âme et du corps. Alors tout d'un coup, dans la cour, en parlant, la distinction de l'âme et du corps arrive, puis je vois un petit sourire. Elle était bien en face de moi, un petit sourire malicieux. Alors je lui dis, vous souriez parce que je parle de la distinction de l'âme et du corps. Pour vous, il n'y a pas de distinction. Alors j'aimerais savoir si pour vous, il y a une distinction entre dormir et faire de la philosophie. Elle n'a pas osé me répondre. Parce qu'elle savait qu'elle était coincée. Bon, je l'ai taquiné, parce qu'il faut taquiner un peu au point du philosophique. Secouer les braises pour qu'il y ait un petit feu qui commence. Alors, j'ai taquiné pendant un certain temps. Puis après, je lisais. Puis alors, sous le coup de minuit, l'épouse du professeur de philosophie est arrivée avec un excellent thé, des petits gâteaux. Dès qu'il y a du thé et des gâteaux, la distinction, la disputation philosophique dégringole. Tout de suite. Alors je dis, mademoiselle, vous avez remarqué que le thé fait descendre la discussion philosophique. C'est dommage. Parce qu'il est très bon, c'est parce qu'il est très bon qu'on est tous occupés à le boire. Est-ce qu'il y a une distinction entre boire du thé ou faire de la philosophie? Impossible de répondre. Vous pouvez faire de la philosophie en buvant du thé, mais vous savez que vous buvez du thé et qu'en boire du thé n'est pas de la philosophie. Vous voyez, tout repose sur l'expérience qu'on a de l'intériorité. Nous avons une expérience de l'intériorité. Et l'âme se découvre par l'intériorité. L'intériorité de l'amour. L'intériorité de la recherche de la vérité. Et dans cette intériorité, je vois que je construis tout un monde d'intentionnalité. On a inventé ce mot intentionnalité pour montrer ce que nous portions en nous, l'immanence du vivant. Le vivant est un être immanent, et le vivant, quand il est spirituel, il a une immanence parfaite. Donc il y a une distinction de l'âme et du corps. Mais cette distinction de l'âme et du corps ne suffit pas. Elle est dangereuse si je la considère comme l'absolu. Parce que, au-delà de ma vie, j'existe. Et mon exister n'est pas ma vie. Ou plus exactement, mon exister est distinct de ma vie, bien que pour moi, vivre, c'est exister, c'est vivre. Nous sommes tous d'accord. Mais la mort, elle se situe à quel niveau? Est-ce qu'elle se situe au niveau de l'être ou au niveau de la vie? Tout problème de la mort. Distinction de l'âme et du corps. Il reste un cadavre. Il reste un être qui a vécu. Un être qui a été habité. C'est vrai, on a tous éprouvé ce choc terrible quand quelqu'un qu'on aime, subitement, il y a une absence. Tant qu'il respire, il y a une présence, il y a une absence. Et quand cette absence dure, on dit ça y est, et puis le cadavre. Alors, il existe quelque chose, le corps, distinct de quelque chose que je n'ai pas vu, mais qui faisait que ce corps était vivant. Et que ce corps avait la possibilité de sens. Je découvre donc ce cas premier, et je découvre ce qu'on appelle les accidents. Les accidents sont des déterminations secondes. Et les accidents sont relatifs à la substance. Alors, est-ce que je dois dire l'âme, c'est ma substance, le corps, c'est un accident ? Théorie de Platon. Pour Platon, le corps est un accident. C'est une pierre tombale. Parce que c'est à cause de la punition, Platon dit ça admirablement, c'est pour lui, quand un homme se conduit mal, il se réincarne. C'est du Platon, c'est pas moi, hein. c'est Platon. Quand un homme se conduit mal, il se réincarne dans une femme. Quand une femme se conduit mal, se réincarne dans un animal. C'est Platon, ça, le divin Platon. Hein. Quand les étudiants sont trop pris par Platon, je dis, regardez bien ce qu'il dit sur la femme. Alors faites attention. Tandis que pour Aristote, et c'est le premier, et c'est la raison pour laquelle saint Thomas est revenu à Aristote, c'est le premier qui considère qu'entre l'homme et la femme, il peut y avoir une véritable amitié. Parce que des deux côtés, il y a une âme. Et qu'il y a une âme humaine. Le corps n'est pas une chose accidentelle, le corps est substance. Alors voyez la distinction âme et corps que je fais au niveau de la philosophie du vivant, elle est dépassée au niveau de l'être. Et c'est ça qui est impressionnant. Au niveau de l'être, mon corps fait partie de ma substance. Ça fait partie de ma substance, c'est mon être. Pas considérer le corps comme quelque chose d'accidentel. Non, non, c'est mon être. Et c'est pour ça qu'il y a une unité substantielle en moi. Mon corps et mon âme font partie de ma substance. Alors, la distinction corps et âme existe-t-elle encore au point de vue métaphysique ? Oui. Mais elle est dépassée. Vous voyez ? Au niveau de la vie, je pourrais faire une dialectique d'opposition entre corps et âme. La métaphysique réconcilie le corps et l'âme. Ça, c'est intéressant. La métaphysique réconcilie le corps et l'âme, mais réconcilie non pas en faisant une synthèse, un amalgame, mais en montrant que l'âme assume le corps. Il y a un ordre entre les deux, et c'est l'âme qui assume. Et l'unité se fait par mon âme. L'âme, source de vie et source d'être. D'être pour mon corps. Mon corps vivant, c'est le corps humain. Mon cadavre, il est relatif à quelque chose qui s'est séparé de lui. Et donc la distinction demeure. Mais l'unité, la réconciliation se fait au niveau de l'être. C'est pour ça qu'on doit aimer son corps. Et qu'on doit le respecter, parce que ça fait partie de mon être, substantiellement. Et quand je dis, je suis mal dans mon corps, oui, imaginativement, vous n'êtes jamais mal dans votre corps. Au point de vue métaphysique. Passer de la vie à la métaphysique, pour comprendre là. Mais il y a un très gros problème là, vous voyez, et très intéressant. C'est le passage de la vie à l'être. Et la distinction de la vie à l'être. La métaphysique, la philosophie première, est au niveau de l'être, au-delà de la vie. Et je comprends que la vie a des niveaux différents et qu'il y a une vie spirituelle qui, elle, implique tout de suite point de vue de l'être, mon intelligence, qui est faite pour rejoindre la réalité dans ce qu'elle a de plus radical. Donc, la découverte de la substance permet de comprendre comment l'âme et le corps sont un substantiellement, tout en comprenant la diversité, la complexité énorme de mon âme et de mon corps. Mais au-delà de cette complexité, il y a une unité. Et cette unité, c'est ce principe radical de toute détermination que j'appelle la substance, que j'appelle l'ousia. Il est vrai, et je dois alors tout de suite dire ça, il est vrai que certaines pensées philosophiques modernes vont rejeter la substance. Voyez Hamelin, qui est hégélien. Alors, il dira, la substance, on ignore ce qu'elle est. C'est le sujet auquel tout est attribué, mais qui n'a aucune détermination. Donc, supprimons, et tout se ramène à la relation. Alors là, il y a un problème extrêmement intéressant au point de vue métaphysique. Est-ce que c'est la relation qui fait l'unité, ou est-ce que c'est la substance? L'erreur d'Hamelin, et c'est pas de sa faute, c'est la faute de la scolastique décadente qui a ramené la substance au sujet en ramenant la métaphysique à la logique. Si je confonds métaphysique et logique, la substance ne sera plus principe selon la forme de ce qui est, mais la substance sera sujet, le sujet radical. Ça, c'est de la logique. Le sujet, c'est ce à quoi tout est attribué et ce qui n'est attribué à rien. Et ça, c'est de la logique. Alors, si je confonds métaphysique et logique, je comprends très bien qu'on rejette la substance parce que ce sujet radical n'existe pas par lui-même, il est indéterminé. Tandis que la substance, au niveau philosophique, est source de toute détermination. Donc, c'est une super détermination dans le langage moderne. C'est super. Vous voyez ? Eh bien, la substance, c'est super. C'est quelque chose que je découvre au-delà de toutes les déterminations et qui rend raison de toutes ces déterminations. Elle est source de toutes ces déterminations. Et donc, pour comprendre ce que c'est que la substance, je regarde toutes les autres déterminations. Et la relation est une de ces déterminations. Alors, vis-à-vis d'Hamelin, vis-à-vis de ceux qui rejettent complètement la substance et qui ramènent tout à la relation, je dirais, mais la relation n'est jamais première. Il faut être deux pour être relatif. Et quand on est deux, il n'y a pas de premier. Vous voyez, dans l'amitié, on est un en deux. Et quand, dans l'amitié, on commence à dire, c'est moi qui t'ai aimé le premier. Donc j'ai autorité sur toi. Vous supprimez l'amitié. Dans l'amitié, il n'y a pas d'autorité. Il y a l'amour. Mais dans une amitié intelligente, on se donne mutuellement l'autorité. Dans ce domaine-là, tu es très compétent. Tu vas me conseiller. Dans ce domaine-là, toi, tu es très compétent. Tu me conseilleras pour pas que je fasse de blagues. Vous voyez, on se donne mutuellement l'autorité. Mais l'autorité n'est pas au niveau d'amitié. Et donc, la relation n'est jamais première, puisqu'elle implique quelque chose de corrélatif. Donc, il y a quelque chose au-delà de la relation. Et le quelque chose au-delà de la relation, c'est la substance permet de comprendre la relation dans ce qu'elle a de tout à fait fort. Quelle est la relation la plus parfaite au point de vue philosophique? C'est l'amour d'amitié. En éthique, la relation est première. En métaphysique, la substance est première.
Thank you.